matin.
7h55, dans les prochaines minutes, comme à chaque vendredi, on prend le temps de jaser avec des gens qu'on aime bien. Denis Gravel qui est là du lundi au jeudi pour le Pit Stop. Et le vendredi, on a décidé d'ajouter à l'équipe Jacinthe-Ève Harel qui sera là avec nous dans les prochaines secondes. On va jaser de plein de sujets. On le sait, Jacinthe-Ève, elle aime Donald Trump. Puis Jeff déteste Donald Trump.
Je déteste pas Donald Trump.
Ah, c'est Max qui déteste Donald Trump.
Je fais juste critiquer certaines politiques qu'il met en place. Je déteste jamais personne.
Et que tu vas te faire jaser, toi. Tu vas te faire jaser.
Je me ferai jaser.
418-971-101. S'il se passe quoi que ce soit sur la route, merci de nous en informer. Max, quelques manchettes. Qu'est-ce qu'on doit savoir aujourd'hui?
Course à la chefferie de la CAQ. Christine Fréchette se lancera officiellement dimanche matin à Trois-Rivières. Le ministre de l'Environnement, Bernard Drainville, devrait aussi faire son annonce dans les prochains jours. Ça a l'air qu'il planifiait peut-être même de le faire dimanche, mais là, vu que Christine Fréchette va le faire, on devrait revoir le calendrier. Selon la presse, Simon-Jolin Barrette, lui, poursuit ses appels, mais semble envoyer le signal à des proches qu'il va aussi se lancer pendant que les ministres Jean-François Simard et François Bonnardel seraient toujours en réflexion. Québec présentera ce matin une nouvelle stratégie de valorisation des minéraux critiques et stratégiques. On parle d'une stratégie sur 10 ans, associé à un budget de plus de 88 millions de dollars, selon les infos de TVA Nouvelles. L'intention qui est d'accélérer le démarrage de projets miniers, mais surtout de favoriser la deuxième et la troisième transformation au Québec. Là, c'est ce qu'on explique. Et Donald Trump retire son invitation à Mark Carney pour joindre son fameux conseil de paix. Sur Truth Social, il a écrit hier soir: « Monsieur le Premier ministre Carney, veuillez considérer la présente comme une notification vous informant que le conseil de la paix retire son invitation à ce que le Canada se joigne à ce qui sera sans doute le conseil des dirigeants le plus prestigieux jamais réuni. »
Merci beaucoup. Au sport, le Canadien qui a réalisé pas la meilleure performance hier, on va se le dire.
Défaite de 4-2 face aux Sabres de Buffalo au Centre Bell, un but de passe pour Nick Suzuki, Cole Caulfield qui a marqué l'autre but du Canadien. Sortie difficile pour Sam Montembeault, 3 buts accordés sur 16 tirs. Et là, grosse rivalité demain, qu'elle en a perdu dans les dernières années, cette rivalité-là. Mais Canadien Bruins du côté de Boston demain soir.
Denis Gravel va être de quel bord demain?
Normalement, il est du bord des Bruins, mais cette semaine, il a dit que l'équipe la plus excitante à regarder était le Canadien.
Ça doit faire mal.
Ouais, et là, la grande question...
Ces gars sont canadiens.
Ouais, puis là, la grande question, Denis, c'est à savoir quand il va regarder le match avec son petit Arthur, est-ce qu'il va crier le but quand le Canadien va marquer? Parce que c'est ce qu'il fait pour te donner un peu de pep avec son gars.
Puis toi, mon petit haters du Canadien?
Ouais, moi, je vais être Bruins.
Ah oui?
Ah oui, samedi soir, c'est clair que je suis Bruins.
Puis tes gars?
Mes gars sont canadiens.
Eh tabard, ouais, ça doit brasser dans la maison.
Ah, ça va brasser.
Moi, j'ai
bon.
La chance d'avoir 3 Canadiens à maison, fait que je m'ostinerai pas, là. Ça va être une super de belle soirée. Jacinthe-Ève Harel est arrivée en studio. Salut, comment ça va, mon ami?
Ça va bien, bon vendredi.
Quelle semaine on a dans l'actualité internationale? C'est complètement fou avec tout ce qui se passe à Davos. Mark Carney qui appelle à l'union. Donald Trump qui arrive puis qui dit: Mark Carney, s'il est là, si le Canada est en sécurité, c'est grâce à nous. Dans le secteur de Davos, on n'avait pas été là, tout le monde parlerait allemand, alors que tout le monde parle allemand à Davos. C'est une des langues les plus parlées. Ça brasse en actualité internationale. C'est juste hallucinant. Là.
Oui. Oui, c'est... Mais on dit ça chaque semaine, là, depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Il me semble que ça brasse beaucoup sur la scène politique internationale depuis son arrivée. On aime ça aussi, hein, parler de ce qui se passe à Washington et de toutes les décisions de notre voisin. On s'est jamais autant intéressé à la politique américaine.
C'est le monde des affaires canadiens, puis les affaires au Québec aussi, qui sont un peu inquiets parce qu'on a quelqu'un de l'autre côté qui est un peu imprévisible dans ses décisions. Puis l'imprévisibilité en affaires, c'est jamais bon, Jacinthe.
Non, c'est sûr, c'est certain. En même temps, on a tapé fort, hein, sur le clou de l'imprévisibilité, mais la vie est imprévisible. Ça se peut que je revienne jamais la semaine prochaine, parce que ça se peut que je me fasse tuer dans un accident de voiture cette semaine, puis que je ne sois pas là vendredi prochain.
C'est dramatique.
Non, mais... Ouais, c'est vrai, ça.
Non, mais la vie
est... pas dramatique dans même un matin.
On t'aime, Jacinthe.
La vie est imprévisible. Ouais. Et moi, ça me fait capoter d'entendre autant d'obsessions sur l'imprévisibilité. C'est vrai qu'en affaires, on a besoin d'avoir des contrats d'approvisionnement, on a besoin d'avoir des clients sur le long terme, on a besoin de cette prévisibilité. côté-là. Absolument, là, je nie pas ça, mais il reste que, en même temps, la vie est imprévisible en soi. Tout est imprévisible dans notre petite sphère familiale. À chaque jour, il y a des parents qui apprennent qu'il y a un enfant qui a le cancer. À chaque jour, il y a des situations... paf, qui nous arrive, on ne peut pas non plus devenir anxieux parce que la vie est imprévisible.
Qui va ressortir gagnant de Davos?
Je pense que tout le monde en sort gagnant parce que ça a forcé tout le monde à s'y intéresser, ça a forcé tout le monde à écouter ce qui avait été dit sur les différentes tribunes par les différents preneurs de parole, et ça force le dialogue, ça force la réflexion, du moins je l'espère. J'espère qu'on n'a pas simplement écouté ça en se confortant de ce qui fait notre affaire et en se satisfaisant de ce qui ne fait pas notre affaire pour renforcer notre image de certains politiciens qu'on n'aime pas ou dont on n'apprécie pas ou dont on juge beaucoup les actions. J'espère que ça nous a forcés. Donc, je pense que tout le monde s'en sort gagnant du point de vue même des États, là, d'avoir ce dialogue-là très franc, très ouvert. Là, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup moins d'hypocrisie qu'il y a pu en avoir à d'autres années. On a dit les choses, on les a nommées, on sait les postures. Il n'y a pas eu de faux-semblants dans ces discussions-là, dans ces prises de parole. Et ça, bien, ça force la réflexion, autant des décideurs, mais autant aussi des citoyens qui regardent ça aller. Moi, je vois les réseaux sociaux, là, les gens qui s'expriment là-dessus. Bon, il y a beaucoup d'experts de salon qui donne des intentions aux preneurs de parole, et ça, il faut faire attention. Moi, je dirais que ça, c'est la chose à faire le plus attention. Ah, Carney veut faire ci. Ah, Trump, c'est clair, il veut faire ça. Il a toujours voulu faire ci, il a toujours voulu... On prête des intentions, on appelle ça des procès d'intention.
Ouais.
Ça, je trouve qu'il faut faire attention.
En même temps, on entend
ça.
Des extraits audio, on entend des extraits vidéo où Trump dit une chose et son contraire. Puis là, après ça, il arrive à Davos en disant, non, je prendrai pas le Groenland de force. Là. Tu vois, tout d'un coup, là, je regarde ma bourse, là, je regarde mes actions. Ah, ça commence à remonter. Je suis content, mais tu sais, il est vraiment imprévisible. C'est soit peut-être extrêmement stratégique, puis c'est dans son livre « The Art of the Deal » que tout ça est planifié, puis lui, il veut en venir à une place X, puis il nous amène à gauche et à droite pour nous mélanger, puis mélanger un peu tout le monde sa planète. Mais c'est stressant en maudit, tu sais. Les gens au Canada étaient en délai. Ils étaient en train de penser... Max était en train de penser rentrer dans l'armée parce que son gouvernement l'aurait peut-être obligé, là. C'est ce qui était écrit dans la presse.
Ouais, mais... Il y a aussi quelle lecture on fait de tout ça et quelle lecture on propose aussi à nos auditeurs sur les ondes de télé, de radio, dans les journaux aussi. Moi, je m'inquiéterais si j'étais... Ben, premièrement, là, si on n'est pas un entrepreneur qui exporte aux États-Unis... déjà, toutes ces décisions-là d'affaires qui sont prises sur les tarifs, par exemple, et nos liens avec les Américains, ça ne nous affecte pas nécessairement dans notre quotidien. Un fonctionnaire ici, aujourd'hui, à Québec, qui s'en va travailler sur la colline parlementaire...
Fonctionnaire, je suis entièrement d'accord avec toi.
Ça ne change rien dans sa vie.
Fonctionnaire, je suis entièrement d'accord avec toi, mais moi, au niveau de l'emploi, tu sais, je surveille ça régulièrement. Le coût des produits qu'on achète, tu sais, si le Canada, à un moment donné, dit... Ben moi, en raison du fait que Trump me charge l'autre côté, je vais y charger de mon bord. Puis là, ben mon produit coûte 20, 30, 40 piastres. Ça me touche, ça m'affecte directement.
Ben oui, absolument. Ça, c'est sûr que les tarifs, je nie pas que les tarifs n'ont pas d'effet, mais justement, là où on devrait s'inquiéter, c'est quand on envenime nos rapports avec nos voisins du Sud. C'est quand on envenime aussi, quand on embarque dans l'escalade avec les États-Unis. Bien sûr que Donald Trump a initié des mouvements de panique, des mouvements d'incertitude au niveau des affaires, mais en même temps, je trouve ça quand même particulier qu'on ne s'inquiète pas plus d'avoir un premier ministre qui n'est pas dans une posture de négociation constante avec les États-Unis et de rapprochement, parce qu'on parle, là, les chiffres varient, là, de peu importe là, de où on s'approvisionne puis qu'est-ce qu'on tient compte, là, mais ça varie entre 70 et 80 % de nos exportations qui s'en vont aux États-Unis.
Partenaire principal pour les États-Unis, puis de l'autre côté, pour les États-Unis, on est le deuxième partenaire principal.
Exactement. Donc, nos marchandises qu'on fabrique ici, nos matières premières, là, dans 70 à 80 % du cas, ça s'en va aux États-Unis. On a beau dire qu'on veut... élargir nos marchés, diversifier nos marchés. Il reste qu'il y a beaucoup de marchandises qui s'en iront pas ailleurs qu'aux États-Unis et ça va rester notre client principal.
C'était-tu une bonne stratégie de la part de Carney d'appeler à tous les pays de puissance moyenne à s'unir contre les États-Unis, selon toi?
Ben moi, c'est ça que je trouve très imprévisible. Moi, je m'inquiète beaucoup plus quand Carney lance un signal qui a terminé de vouloir s'entendre avec le voisin du Sud sur un momentum. Hein? Parce qu'il ne faut pas oublier, la présidence de Donald Trump va durer 4 ans. Il nous reste 3 ans.
On a l'impression que ça fait 20 ans qu'il est là.
Mais à l'échelle de l'histoire...
Il me brûle, je sens.
À l'échelle de l'histoire du Canada, à l'échelle de l'histoire de nos relations économiques, là, c'est un chapitre difficile, un mauvais chapitre, un très mauvais chapitre. Appelez-le comme vous voulez, avec vos sentiments, vos émotions à vous, bien entendu. Mais il reste que faut dézoomer, là. Faut vraiment dézoomer et regarder ça à l'échelle de l'histoire, à l'échelle de nos rapports économiques. Et à cette échelle-là, c'est risqué de prendre une posture où on entre dans cette confrontation mutuelle. Parce que, ramenez-le à vos rapports humains personnels, là, mais ramenez-le. Quand quelqu'un tente de vous picosser, quand quelqu'un tente de vous narguer, là, on peut embarquer là-dedans puis nous aussi être submergés par nos émotions puis embarquer dans ce picossage-là puis dire « je vais me tenir droit, moi aussi je me laisserai pas faire ». Mais en même temps, il faut regarder réalistement là, où est notre posture là-dedans. C'est notre principal client.
Moi, tu vois, je suis quand même en désaccord avec ce que tu dis parce que moi, Carney le sait, puis le Mexique aussi, que ça va passer par la renégociation de l'ACEUM. Et ça, c'est prévu pour 2026, quelque part, printemps, été, automne. Bon, c'est prévu pour être signé d'ici la fin 2026. Alors moi, je trouve ça très stratégique de s'allier justement avec les moyennes économies qui sont l'Europe pour, en prévision, parce qu'on sait qu'on va perdre au change des choses dans la renégociation de l'ACEUM. Fait que moi, je trouve ça très intelligent de faire le premier pas d'avant pour déjà... lorsqu'on va en perdre dans la renégociation, qu'on ait créé d'autres partenariats. Fait que moi, ce que Mark Carney fait, je trouve qu'il y a une belle logique derrière ça. Fait que c'est là que je suis en désaccord avec toi.
Cette posture-là, elle est souvent... Il y a plein de monde qui pense comme toi, Jean-François, mais souvent, ces gens-là sont salariés, confortables, soit fonctionnaires, soit salariés avec un employeur québécois et ne sont pas touchés par ça. Moi, je parle à des entreprises, je parle à plusieurs entrepreneurs qui exportent aux États-Unis. Puis... vous irez dire ça à des fabricants de pièces de métal qui s'en vont aux États-Unis, à des exportateurs d'armoires de cuisine, à des exportateurs de choses qui sont fabriquées ici, qui doivent être acheminées aux États-Unis pour continuer la transformation ou pour carrément être vendu là-bas, là, des portes de garage qui sont fabriquées ici puis qui sont transportées par la suite aux États-Unis. Ces entrepreneurs-là sont extrêmement inquiets parce que
eux
disent « Moi, je ne vendrai pas mes portes de garage puis mes armoires de cuisine au Japon. » C'est pas vrai que le Japon va importer des armoires de cuisine faites en bosse.
Tu voudrais qu'on fasse quoi? Parce que de toute façon...
Non, mais c'est pas moi. C'est que ces entrepreneurs-là, les entreprises qui sont concernées par le commerce avec les États-Unis, il y en a plusieurs d'entre eux qui savent très bien que leur matériel ne sera que vendu soit au marché canadien, soit au marché américain.
Mais quelle est ta piste de solution?
Ben, c'est là où il faut rester en pourparler constructif avec nos voisins du Sud. Il faut rester en dialogue avec Washington. Et il n'y a pas que Donald Trump aux États-Unis. Il y a tout un réseau diplomatique qui est développé. Il y a des gouverneurs dans les différents États. Et on ne peut pas commencer à envoyer une posture hostile quand on n'est pas le joueur qui possède le plus gros coffre d'outils. Notre coffre à outils, là, il est plus petit.
Je comprends tout ça, mais le problème étant que Trump fait la sourde oreille. Trump me donne une leçon. Il donne une leçon à tous les hommes et les femmes d'affaires, puis à tout le monde qui veut se lancer en affaires. C'est diversifier vos importations et vos exportations. On n'est plus votre grand frère. On est des gens qui font des affaires ensemble maintenant, et ça doit être égal. C'est comme ça qu'il voit ça. Moi, c'est comme ça que je le prends. Ce qui fait en sorte que Carney, Trump, c'est vraiment pas le mien, puis Carney, c'est encore moins le mien, mais de voir mon premier ministre à côté de Donald Trump avec les petits genoux collés puis rire des blagues de Donald Trump comme un caniche de service, moi, j'ai pas aimé ça, mais pas
non,
aimé
c'est
ça
sûr.
Du tout.
Ben non.
Fait que de le voir appeler à d'autres pays à se rassembler pour s'unir contre Donald Trump parce que Trump fait la sourde oreille, c'est comme un petit jab à Donald Trump, puis j'ai apprécié. Qu'est-ce que ça va donner concrètement dans le monde des affaires entre les États-Unis puis le Canada? Je le sais pas, Jacinthe-Ève, mais de toujours, toujours rester à genoux, j'ai jamais trouvé que c'était une bonne solution. Là.
Non,
à
non.
Part, ça dépend quel métier tu fais. Là.
Mais non, mais on n'est pas dans une dichotomie non plus. C'est pas s'agenouiller ou devenir baveux, devenir hostile, se tourner vers la Chine et plutôt que devenir un État vassal des États-Unis, devenir un État vassal de la Chine non plus. Alors, il y a...
Là, c'est ça que je te dis. Moi, aller chercher les Chinois, puis je pense que Jeff il va être d'accord avec moi là-dessus, là, les Chinois, ils ne seront jamais nos amis. Là.
Non.
Ce seront jamais nos grands frères. Ils veulent nous dominer, tout comme les Américains veulent dominer d'autres nations. Les Chinois veulent nous dominer. Hey, on arrête un Chinois à Hydro-Québec pour espionnage.
Ben oui. Ben oui.
Puis là, on veut les faire
rentrer. Et c'est stratégique, là.
On veut faire rentrer des industries chinoises chez nous dans le monde de l'automobile. Tu disais, un peu, là, il y a des affaires qui se passent, là.
Oui, il y a des dangers à faire affaire avec la Chine. Il n'y a pas de doute dans mon esprit. Puis c'est pour ça que moi, j'aime mieux qu'on se tourne vers le monde européen et qu'on tente justement de diversifier nos marchés avec l'économie européenne qui représente une bonne part de l'économie mondiale. Ça, je trouve ça intéressant. Puis je vois pas ça comme de l'hostilité. Je vois plus ça comme... de l'intelligence, dire « OK, je le sais que de toute façon, je vais en perdre avec les États-Unis, donc il faut que je réussisse à gagner des nouveaux marchés pour tenter de venir équilibrer. » Et dans cette perte-là, oui, il va y avoir des entrepreneurs que tu me parles qui, malheureusement, ça va faire mal à leur business. Mais c'est pas le Canada qui a décidé ça, c'est les États-Unis. On subit ces décisions-là et on doit justement modifier nos pratiques. Moi, c'est comme ça que je le vois.
Mais ces discours-là sont très intéressants. Puis effectivement, que les puissances moyennes s'associent, fassent plus d'affaires, se conscientisent à développer leur économie, devenir plus résilientes, avoir des économies plus robustes, créer de la richesse, c'est une bonne chose. Mais il faut aussi aller plus loin que les grands principes. Parce que là, en ce moment, tout le monde s'entend sur ces grands principes-là, mais creusez davantage les principes, vous allez trouver des grandes failles. Des grandes failles comme, par exemple, les pays d'Europe desquels on veut s'approcher sont dans la même posture que nous, c'est-à-dire qu'ils se sont désindustrialisés énormément dans les dernières décennies et eux aussi dépendent des États-Unis et dépendent de la Chine, dépendent de d'autres géants économiques. Alors, c'est facile, si on reste en surface, là, c'est très facile de dire, ben oui, il faut s'approcher de l'Europe, puis ça finit là, mais si on regarde aussi, eux, comment ils débattent leur politique intérieure, comment ils défendent leur économie, sont dans la même posture ou dans des situations semblables où ils se sont désindustrialisés et tout dépend maintenant des investissements étrangers, notamment des Américains, notamment de la Chine. Emmanuel Macron veut aussi se rapprocher de la Chine. Pourquoi, vous pensez? Alors, il y a aussi cette posture de faiblesse-là dans laquelle sont plusieurs pays d'Europe. Je ne vais pas dire « est l'Europe » parce que l'Europe, c'est 27. L'Union européenne, c'est 27 États.
Mais tout commence par un grand principe. Puis après ça, justement, on vient établir ces partenariats-là. Tu peux pas arriver puis dire... Tu n'as pas le choix d'établir une base macro avant de venir le travailler micro. C'est ça, présentement, qui est instauré par le Canada et l'Europe.
Oui, absolument. Mais il faut regarder les chiffres. Les chiffres sont qu'on est quand même 10 fois moins nombreux et notre économie est 11 fois plus petite que celle des Américains.
335 Américains, 40 millions de Canadiens.
Puis si on veut exporter du bois d'œuvre, nos 2x4, ils seront pas achetés en Europe. Là. Oubliez ça, nos 2x4 ne seront pas achetés. Il y en a du bois là-bas et on n'est pas capable d'exporter notre bois d'œuvre à prix compétitif. Fait qu'on va rester collé avec nos 2x4 si on les vend pas aux Américains.
Oui, mais on sait que notre économie va changer, Jacinthe-Ève. Puis c'est pas nous autres qui a décidé qu'elle change. C'est les États-Unis qui a décidé que notre économie allait changer. On n'a pas le choix de trouver des moyens alternatifs et de s'adapter à la situation. Puis malheureusement, oui, le marché du bois d'œuvre, ça va faire mal. Oui, c'est triste. Puis oui, ça me fait de la peine. Puis oui, il y a peut-être une ville comme La Tuque qui va fermer. Mais c'est pas nous autres qui l'a décidé, puis là, on peut pas rester
bon. Ben oui, c'est nous autres qui l'a décidé. Ben oui, parce que, ben oui, quand quelqu'un se montre hostile à nous, quand quelqu'un nous challenge, on réagit comme on veut, on peut fermer la porte puis dire, bon, mais dans ce cas-là, je te parle plus, je m'en vais ailleurs. Mais on se punit soi-même. Si ton adolescent de 15 ans dit, moi, je pars en appartement, papa, je lâche l'école, je m'en vais travailler au salaire minimum, puis je vais être capable, je vais être capable, y a une façon qu'on peut réagir face au petit, et le petit, il y a une façon de réagir face à soi-même aussi. Donc, il faut regarder les rapports de force. On élimine tous les rapports de force dans ce type d'analyse.
Tu te serais couché devant Donald Trump et les États-Unis, tu n'aurais rien fait?
Il faut regarder les rapports de force. Et en tenant compte de nos rapports de force, il ne faut pas se lancer comme un adolescent pas de tête qui part puis qui pense qu'il va refaire le monde à lui tout seul sur ses grands principes.
Mark Carney n'est pas un adolescent pas de tête. Je m'excuse, c'est le premier ministre.
Non, mais on parle des États en ce moment. On parle du Canada. Le Canada.
Ouais. Ben, le Canada ne se lance pas comme un adolescent pas de tête. Je m'excuse.
Le Canada.
T'es en train de bien se positionner à l'échelle mondiale.
Le Canada doit tenir compte des rapports de force et de sa situation économique et doit regarder aussi qui sont les entreprises qu'on représente, qui sont les entrepreneurs au Canada, qui sont les économies qui vont pâtir de ce pied de nez qu'on fait à notre plus grand client sans avoir développé d'autres clients.
Continuez à négocier avec les États-Unis. C'est juste qu'on négocie avec d'autres nations aussi, d'autres pays, d'autres unions. Parce qu'on le sait qu'on va perdre du marché aux États-Unis. Donc, on ne peut pas rester les bras croisés et dire « Hey, on perd du marché aux États-Unis, mais c'est pas grave. On n'en développera pas d'autres. » Comme ça, on va perdre sur notre PIB 3, 4, 5, 10, 12 milliards. On ne peut pas faire ça.
Il y a plusieurs géopolitologues, sociologues aussi, philosophes aussi qui ont écrit dans l'histoire de l'humanité sur les relations internationales. Et ce qui ressort de plusieurs de ces écrits-là, notamment Raymond Aron, qui alerte à la tentation de prendre des décisions qui vont affecter ton état sur le long terme, basées sur des circonstances temporaires, basées sur des circonstances à court terme. C'est le plus grand danger en géopolitique, c'est de prendre des décisions qui vont affecter ton économie sur le très long terme, basées vraiment sur des circonstances. Et en ce moment, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de prendre tourner dos aux États-Unis. Et je ne suis pas la seule à le dire, là. On a une diplomate, notamment Louise Blais, qui a été représentante du Canada aux Nations Unies, qui a travaillé aux États-Unis avec les Américains depuis plusieurs années et qui mentionne qu'il faut faire attention à notre approche. Oui, on peut se tenir debout. Oui, on peut diversifier notre marché. Oui, on peut se tourner vers les puissances moyennes, développer des ententes avec les puissances moyennes. Il reste qu'il faut tenir compte de nos rapports de force, il faut tenir compte des impératifs, il faut tenir compte aussi qu'à ce moment-là, en ce moment-ci, on est dans une situation politique difficile qui est temporaire et ça n'a rien à voir avec l'histoire au grand sens du terme entre le Canada et les États-Unis.
Qui vivra, verra. Ben ouais. Il reste 3 ans, Jacinthe, au mandat de Donald Trump. J'ai hâte de voir si J.D. Vance va passer par la suite. Là, jusqu'à maintenant, Donald Trump, si je regarde les chiffres, il y a un taux d'approbation aux États-Unis de 40%, ce qui est semblable à son premier mandat. Ouais. C'est un sondage qui a été réalisé au début du mois de janvier. Je ne sais pas si ça a changé honnêtement dans les derniers jours, là, mais ce serait intéressant de le voir. Max était fâché un matin. Il était fâché hier soir parce que Mark Carney, M. Hellbozop, était de passage à Québec et il y a eu quelques commentaires, Max, hein, par rapport aux plaines d'Abraham, la relation francophone puis anglophone.
Ben, moi, c'est déformer l'histoire là, de parler de belles collaborations.
Un Anglais qui déforme l'histoire. Un conquérant qui déforme l'histoire.
Quelle belle collaboration. On s'est fait tirer dessus. Après ça, ils nous ont assimilés. Mais tabarouette de belles collaborations entre les Anglais et les Français.
On écoute Mark Carney.
Les plaines d'Abraham symbolisent un champ de bataille, oui. Mais ils symbolisent aussi le lieu où le Canada a commencé à faire le choix historique de privilégier l'adaptation plutôt que l'assimilation.
Et il parle de la bataille des plaines d'Abraham, c'est bien ça?
Ben, ça ressemble à ça, là.
Il y a des Français qui se sont fait tuer.
Oui.
Et les Français ont perdu.
Oui. Puis, on a négocié. Le début d'une belle histoire. Là. Une belle histoire. On s'est dit, ouais, on se fait tirer dessus, on se fait tuer. Aussi bien partir sur une belle histoire d'amour puis continuer de se faire assimiler à long terme.
Qu'est-ce qui t'a choqué dans ce qu'il a dit. Est-ce que, selon toi, il pensait vraiment? Est-ce que, selon toi, c'est du marketing pur et simple? Est-ce que, selon toi, c'est du chat GPT à côté? Moi, selon, ce que je lis, là, ce que j'ai lu, parce que j'ai relu la transcription ce matin, c'est du chat GPT. Là. C'est
moi,
quelqu'un
je pense
avec
pas.
Aucune sensibilité. C'est quelqu'un qui a aucune connaissance de l'histoire. Il a regardé ce qui s'est passé, ce qui a été écrit sur le web, puis il a tout rassemblé ça.
Pour moi, c'est un
l'a
gars
rendu poète un peu.
Qui est sur une overdose de confiance depuis son beau discours à Davos, qui s'est dit « Tabarouette, quand j'écris mes discours moi-même, je suis vu comme un sauveur à travers le monde, je vais le refaire à Québec, je vais t'écrire un beau discours sur l'unité canadienne, puis inclure le Québec là-dedans, le Québec qui a choisi deux fois de rester au sein du Canada et de donner de nouvelles chances au Canada. » Moi, c'est ça que j'ai vu. C'est un gars qui est sur une overdose de confiance, qui pense que tout lui est permis, puis qui va sauver le Canada. Puis là, c'est un manque de sensibilité envers les Québécois. C'est un manque de respect. Il s'essuie les pieds sur nous autres, sur notre histoire, sur le fait qu'on se fait assimiler depuis des centaines d'années. Mais tabarouette, de belles histoires d'amour. Ils nous tiraient dessus. Ils ont gagné la guerre. Fait que depuis ce temps-là, ben quelle belle collaboration.
Discours qu'un Amérindien pourrait dire aujourd'hui.
Oui, en effet. mais moi, je suis d'accord avec Max sur le fait que ça a carrément manqué de sensibilité envers la nation du Québec. Là. J'ai pas de doute dans mon esprit.
Je me joins au chum David, je sais pas ce que Jacinthe en parle, mais le chum David dit il a fait un beau discours la veille, il aurait peut-être dû fermer sa gueule le lendemain.
Ben, c'est parce que encore une fois, il a démontré qu'il tient pas compte des rapports de force. Encore une fois, autant à Davos que maintenant, il tient pas compte des rapports de force et il a vraiment complètement transformé le récit qu'on a vécu et c'est très, très arrogant de faire ça. Tu sais, c'est les plaines d'Abraham, c'est pas un lieu, ça rien d'innocent, là. C'est pas un lieu neutre, c'est un lieu très chargé et de venir chez nous, sur les plaines d'Abraham, faire ce discours-là en écartant complètement le rapport de force historique très précis qui a eu lieu. Moi, je le vois comme une grande arrogance. Tu dis qu'il se sent tout puissant. Je suis d'accord avec toi. C'est vraiment...
Au Québec, on a une connaissance de notre histoire, Jacinthe-Ève, parce qu'on nous l'a enseigné à l'école, la bataille des plaines d'Abraham. Mais au Canada anglais, ils ont pris les livres qui ont été écrits par les vainqueurs. Là.
Oui.
T'sais, c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Ça prend des historiens pour démêler le vrai du faux. Ça prend des enseignants à l'école pour démêler le vrai du faux. Mais nous, on la connaît, notre histoire. Mais est-ce que le Canada anglais la connaît vraiment, cette histoire-là? C'est une autre affaire. Moi, je pense que ça a été fait par ChatGPT. C'est tellement poétique que ça a été fait par ChatGPT. Puis c'est tellement cave que ça a probablement été fait par ChatGPT. Puis il n'y a personne qui a repassé sur ce texte-là.
Mm-hmm. Ben, peu importe qui aurait rédigé ce discours-là, moi, ça m'importe peu. Il reste qu'il l'a porté. Il a décidé d'en porter l'entière responsabilité et de faire ça sur les plaines d'Abraham à Québec. Dans un moment où on a presque l'impression qu'il est dans une campagne électorale, on a presque l'impression qu'on va passer au référendum prochainement puis qu'il est devenu capitaine Canada, capitaine du nom. Les circonstances étaient drôlement choisies aussi. On est dans un moment où, justement, il revient de Davos. On aurait aimé ça l'entendre parler de sa stratégie sur l'économie parce que, rappelez-vous bien, que s'il avait parlé de son désir de se rapprocher de la Chine pendant sa campagne électorale, s'il avait été honnête, peut-être qu'à ce moment-là, il ne le savait pas, mais si dans sa campagne électorale pour devenir premier ministre du Canada, il nous avait parlé que son désir, ce serait de se rapprocher de la Chine, rappelez-vous, on l'a élu pour... faire face à Donald Trump, on ne l'a pas élu pour se rapprocher de la Chine.
Effectivement. Je vais te parler d'Éric Duhaime, je vais te parler du financement aussi des partis tout de suite après, mais Éric Duhaime a annoncé hier deux candidats pour la région de Québec. Marie-Josée Élie, on la connaît bien,
oui.
C'est une femme intéressante, une femme brillante qui s'exprime super bien. Et de l'autre côté, on nous a annoncé, puis c'est rien contre cette personne-là, là, mais un étudiant à l'Université Laval qui va tenter de se faire élire dans la circonscription de Taschereau, qui est détenue actuellement par Québec solidaire. Et si je ne me trompe pas, j'ai été sur Québec 125, c'est lundi au mardi, j'avais regardé la circonscription de Taschereau, puis c'est PQ à côté, je pense, à 60 %. Là.
Ça a toujours été une circonscription qui a voté plus à gauche.
Oui, mais là, s'il y avait des intentions demain matin, c'est PQ.
Ouais, ouais. Mais quand même, QS n'est pas loin derrière, par exemple.
QS n'est pas loin. Ouais. Le Parti conservateur, c'est très bas. Je m'attendais à une candidature dans ce secteur-là, dans Taschereau. Je m'attendais à une candidature peut-être un peu plus connue que celle d'un étudiant de l'Université Laval. Mm-hmm. Qu'est-ce qui fait en sorte que Duhem n'est pas capable d'aller chercher des rockstars?
Bien, il est tôt, hein, encore. La question qui précède ta question, est-ce qu'il est capable d'aller chercher des rockstars, c'est pourquoi commencer à présenter des candidats maintenant? Il est peut-être un peu trop tôt. Les gens sont... On sort à peine des élections municipales. Les chefs de parti veulent être préparés, veulent montrer qu'ils sont prêts à toute éventualité en cas de campagne électorale provinciale. Mais en même temps, il est encore tôt. C'est peut-être le momentum. Encore une fois, je pense qu'on tente d'aller rapidement. Candidature de qualité, mais je le connais pas, donc je peux pas. C'est sûr que c'est peut-être pas une vedette parce qu'il est jeune, mais on sera.
Un étudiant de l'université, on a besoin de jeunes en politique.
Ben oui, là, absolument. On se rappelle Catherine Fournier qui est rentrée à l'Assemblée nationale comme étant la plus jeune députée de l'histoire de l'Assemblée nationale à Québec. Puis Catherine Fournier s'est montrée extrêmement talentueuse, extrêmement brillante. Et elle a encore un avenir en politique. Elle est mairesse de Longueuil maintenant. Et elle est fort appréciée de ses citoyens. Donc, ça se peut qu'un jeune, même s'il n'a pas encore fait ses preuves dans le milieu du travail puis qu'il est encore aux études, soit très bon. Alors, je veux pas
me ramasser avec un Éric Duhaime, seul membre de son parti. Tu sais, je veux pas un one-man show encore.
Oui, c'est sûr qu'on aimerait le voir entouré de têtes d'expérience, de gens...
Docteur Elayoubi sort une fois de temps en temps, il sort un peu plus. On entend Adrien Pouliot une fois de temps en temps, mais pas dans toutes les radios, puis on l'entend nécessairement moins à télé aussi. Mais faudrait qu'il y ait des gens, des hommes et des femmes d'affaires, des gens qui ont de l'expérience, qui se présentent pour ce parti-là. T'sais. Marie-Josée Élie, je le comprends, je comprends le choix d'Éric, mais du côté d'un étudiant à l'Université Laval, je me dis, mais pourquoi l'annoncer là? On aurait peut-être dû...
Pourquoi pas avoir travaillé plus à long terme cette circonscription-là, c'est ça que tu me dis?
Exact.
Moi, je suis d'accord avec toi. Est-ce que, justement, il va falloir qu'il arrête ces candidatures-là annoncées rapidement et éloignées de la campagne électorale, compte tenu que là, on va rentrer dans la course à la chefferie de la CAQ? Là. Il va perdre pas mal de place médiatique, veux pas.
Oui, bien, il y a tout un enjeu de stratégie là-dedans parce que aussi, parfois, il y a des partis qui vont attendre de voir quelles candidatures vont être présentées par les autres partis avant de faire leur choix final sur leur propre circonscription.
En effet.
Donc, il y a un jeu là, de quand on présente nos candidats. Donc, aller très rapidement, je pense pas que le Parti conservateur est gagnant d'en y aller très rapidement, d'en présenter ses candidats. Ça peut être intéressant de voir qu'est-ce que le Parti québécois va faire, quelle est sa stratégie, la Coalition Avenir Québec aussi, puisque pour le Parti conservateur, tout est à construire, hein, dans le sens de faire élire le plus de candidats possible. Donc, dans ces circonstances-là, il y a un calcul très fort qui doit être fait dans chaque circonscription. Donc, ralentir, je pense que ça peut être une bonne idée. En même temps, je reviens, mais j'évacue pas l'idée que c'est pas parce qu'on nomme quelqu'un rapidement qu'on a escamoté. Ça se peut que cette personne-là soit extrêmement articulée, extrêmement intéressante, extrêmement convaincue aussi. Donc, laissons la chance aux joueurs. Je vous rappelle que des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, des gens d'expérience, des gens très articulés, des gens qui ont un beau bagage à offrir aux Québécois, c'est de plus en plus difficile à trouver pour tous les partis politiques.
Ils vont peut-être attendre à la dernière minute pour se présenter aussi.
Oui.
Parce que là, on est encore loin des élections. On est à quelques mois, hein? Presque quoi, un an?
Bien, c'est 2 octobre 2026. Donc, on est encore quand même à peu près 9 mois des élections.
918 290 $ qui a été ramassé par le Parti québécois dans l'année 2025. Ça a rentré directement dans la caisse enregistreuse. Le PQ qui dépasse largement ses adversaires. Parti libéral qui est pas en reste à 262 353 $. La CAQ est à 231 040 $ de ramassé à coup de cocktail de financement. Québec solidaire est autour de 224 604 $. Et pour ce qui est d'Éric Duhaime, c'est vraiment une année difficile, seulement 51 387 $. Ce que je veux savoir, Jacinthe Varel, cet argent-là sert à quoi? Et pourquoi, dans le cas du Parti conservateur du Québec, on a ramassé si peu de dons, selon toi?
Oui, ça va. Le Parti québécois a le vent dans les voiles au niveau des dons, des membres qui veulent encourager le parti et qui voient des bonnes chances au Parti québécois de prendre le pouvoir aux prochaines élections provinciales. Ça s'est essoufflé au niveau des membres du Parti conservateur du Québec. On a beaucoup de difficultés à renflouer les coffres avec les dons. En même temps, on a beaucoup de difficultés à renflouer les coffres. C'est facile à dire, mais si on n'a pas mis beaucoup d'accent sur l'organisation de soirées pour lever des fonds, la priorité n'était peut-être pas là non plus pour le Parti conservateur. Je ne le sais pas. Est-ce qu'on a fait le choix de se concentrer sur un programme, parler beaucoup avec nos membres, sur travailler un programme en profondeur, être davantage prêt pour 2026? On a peut-être décidé de mettre l'énergie là plutôt que l'énergie sur ramasser des fonds. Il faut savoir qu'il y a aussi des entrées d'argent pour le Parti conservateur qui sont liées à Élections Québec où...
chaque vote compte.
Chaque vote compte et chaque vote rapporte une entrée d'argent annuellement depuis les dernières élections où on a eu 530 000 électeurs pour le Parti conservateur. Donc ça rapporte... Okay.
Puis l'argent qu'on met dans la caisse, parce que dans le cas d'Éric Duhaime, il est rémunéré avec cet argent-là. Il y a un salaire qui lui est octroyé, de ce que je comprends. Pour ce qui est des gros partis, cet argent-là sert à quoi?
Ça sert à organiser les campagnes électorales. Donc, les pancartes qu'on voit, là, les pancartes qui sont imprimées sur les poteaux, ben, c'est imprimé avec l'argent de notre campagne électorale. C'est comptabilisé. Toutes les dépenses électorales aussi que les candidats font. Si, par exemple, ils achètent des muffins pour leurs bénévoles qui vont faire des téléphones, qui vont faire du porte-à-porte, ben, ça rentre dans les dépenses électorales. Donc, on doit comptabiliser toutes les dépenses électorales et ça doit balancer avec l'argent qu'on a dans la caisse, donc l'argent qu'on a reçu de nos dons, de nos membres. Donc, c'est important en année électorale. C'est là où souvent les partis vont faire plus de campagnes de financement pour essayer d'aller chercher le maximum parce qu'on sait que ces années électorales-là, on dépense plus durant les campagnes électorales-là. Donc, on peut aussi dédommager pour les frais d'essence pour nos bénévoles qui sont allés parcourir des longues distances, toutes sortes de dépenses comme ça.
Si je me fie au texto, on a fait exploser le texto avec la discussion sur Donald Trump.
C'est
un débat. Tu laisses personne indifférent, Jacinthe. On s'en reparlera vendredi prochain. C'est toujours un plaisir. Max, y a-t-il quelque chose à noter sur la route?
C'est un vendredi matin assez mollo. Secteur des ponts, ça a été ouvert toute la matinée. Seul endroit qui est un petit peu problématique en ce moment, c'est Capitale Ouest entre Henri Bourassa et Laurentienne, mais c'est vraiment moins pire qu'à l'habitude.
Merci beaucoup. On fait une courte pause. Il est 8h31. Marceau le matin.